Eh bien, comme je l'avais dit à plusieurs reprises, Dieu est le créateur. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien, plutôt ce soir, j'aimerais bien parler de Dieu et le créateur. C'est un attribut de Dieu. C'est ce qu'est Dieu. Il est éternel, il est saint, il est sage, il est fidèle. C'est dans sa nature même. Dieu ne peut pas être autrement que d'être le créateur. C'est une vérité essentielle. C'est quelque chose que nous devons garder précieusement dans notre cœur et qui est combattu malheureusement dans notre monde depuis déjà au moins 2 siècles. Les gens se sont mis dans la tête qu'ils enseignent qu'il n'y a pas de créateur. Il y a une évolution. C'est tout ce que l'on voit, eh bien, est arrivé par hasard. Un jour ou l'autre, eh bien, ça s'est fait comme ça. Mais la parole de Dieu nous affirme que Dieu est le créateur. Cela implique beaucoup de choses, parce que c'est dans la nature même de Dieu d'être le créateur. Il ne peut pas être autrement que le créateur. C'est quand Dieu agit, c'est toujours une création. Je ne peux pas imaginer que Dieu ait créé le monde en 7 jours et puis qu'ensuite il s'est reposé et que maintenant il continue à se reposer. Le jour du repos de Dieu est terminé. Il continue à créer. Il y a des multitudes d'occasions de création. Pour moi, une réponse à la prière est une création. Ce n'est pas autre chose qu'une création. Dieu crée l'opportunité qui fait que. Donc nous allons commencer par le commencement, parce que là je suis en train de vous faire anticiper la fin. Mais c'est vrai que dans la Genèse, premier verset, c'est la première parole de la parole de Dieu, c'est la première affirmation que nous trouvons, c'est la premier élément du caractère de Dieu, des attributs de Dieu, c'est qu'il est le créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La parole de Dieu n'a pas l'habitude de nous donner des explications. Dieu affirme des choses parce que ce sont des vérités essentielles, éternelles. Dieu n'a pas besoin de s'expliquer et de se justifier. Donc, beaucoup de paroles comme cela sont énoncées d'une manière simple, directe, en quelques mots. Il y a un auteur du 1er siècle, c'était un païen, il a écrit un traité, le traité du sublime, qui est sublime. Si vous avez l'occasion un jour de lire ce traité, c'est un délice. C'est quelque chose de vraiment, c'est un moment de récréation. C'est tellement beau. Et je l'ai lu à plusieurs reprises et c'est quelque chose qui est beau, tout simplement. Et alors, il dit au sujet de. Il parle de Moïse. Et il dit, Moïse, qui certainement n'était pas un homme quelconque, eh bien, mais Dieu, en premier, dans son livre, il dit au commencement. Dieu. Et il dit, cette parole est sublime. Il n'y a aucune explication. Le fait est posé, le fait est clair, le fait est limpide. Dieu a créé. Au commencement, Dieu. Tout le reste, découle de cela. Et c'est merveilleux, vous savez, que la parole de Dieu, eh bien, nous parle de son auteur. Et nous en parle dans des mots si simples. Parce que ce sont des vérités non seulement éternelles, mais incompréhensibles pour l'homme. Ou si nous comprenons quelque chose, eh bien, c'est le bord des voies de Dieu. C'est la lisière. Alors que vous êtes devant une immense forêt, vous vous êtes promené à la lisière et vous soupçonnez l'immensité qui est et la profondeur de la forêt, mais vous êtes à la lisière. C'est comme vous êtes au bord de l'océan, vous plongez votre pied dans l'océan, vous dites, j'ai mis mon pied dans l'océan Atlantique. Oui, mais qu'avez-vous compris? de l'océan Atlantique. Vous avez peut-être fait un premier pas dans l'océan Atlantique, mais vous n'êtes pas allé dans la profondeur de l'océan Atlantique. Et je ne vous encourage pas à le faire, parce qu'on s'y noie. Et si les choses matérielles, on peut tirer des images aussi profondes, eh bien, à plus forte raison du Dieu créateur, du Dieu qui a créé toutes choses. C'est nous, nous ne sommes que créatures. Donc, quand nous parlons de notre créateur, nous ne pouvons que parler avec des limites. Parce que comment allons-nous sonder celui qui est à notre origine? C'est nous dépendons de lui, nous venons de lui. C'est lui qui nous a fait. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous pouvons arriver jusqu'à un certain point, mais nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin. Il y a des quantités de versets dans la Bible qui affirment que Dieu est le Créateur. Et si vous gardez cette pensée en tête et que vous lisez votre Bible, eh bien vous allez voir le nombre de fois où Dieu est mentionné comme le Créateur, comme Dieu ayant fait toutes choses et ayant fait d'une manière extraordinaire, magnifique, merveilleuse, au-delà de toutes les explications humaines. Et quand l'homme essaye d'expliquer l'évolution, eh bien, il est perdu dans des discours qui, si on analyse bien, on se dit, mais quand même, comment peut-on dire des choses pareilles? Je me rappelle, il y a quelques années, on me disait, eh bien, voilà, c'est très simple. Il y a il y a des multitudes de singes, et puis on arrive à Néandertal. Et puis après Néandertal, il y a Cro-Magnon, et après Sapiens Sapiens. Et nous sommes, bien sûr, le sommet de l'évolution. Mais un jour, en lisant une revue scientifique, eh bien, quelqu'un avait découvert que l'os du pied de Néandertal n'était pas tout à fait le même que celui de Cro-Magnon. Et donc, obligatoirement, il ne pouvait pas y avoir évolution. Donc maintenant, on vous dit d'une manière claire, non, non, impossible, impossible. Oui, mais dans le passé, si vous aviez dit cela, vous auriez été à l'encontre d'une doctrine, parce que c'est une véritable religion avec ses dogmes, ses doctrines. Il faut vraiment un scientifique de leur milieu qui puisse remettre en cause certaines choses. Mais nous, si on dit, ah non, non, ah, vous êtes créationniste, vous, c'est-à-dire vous n'êtes pas des scientifiques, vous êtes vraiment des gens qui ne comprenaient rien. Et dernièrement, il y a 2 mois, je lisais une autre revue scientifique et il y avait des piliers de l'évolution. L'archéoptéryx, l'ancêtre des oiseaux, pour faire simple, eh bien, on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout, du tout, du tout l'ancêtre des oiseaux. Et c'est on vous disait, les dinosaures sont les ancêtres des oiseaux, parce que l'archéoptéryx, eh bien, c'est explication. Et alors, la personne, un évolutionniste, disait que les créationnistes ne tire pas des conclusions hâtives que. Eh bien, évidemment, on n'a pas tiré des conclusions hâtives, on est tout simplement en train de dire que leur système ne tient pas la route. Et ils ne n'osent pas le dire. Alors, c'est comme, vous savez, les vieux pneus qui sont rafistolés de tous les côtés, et quand il est percé, on met une rustine, et puis malheureusement, il est percé de l'autre côté, on met une autre rustine, et puis on s'aperçoit que c'est quand même toujours percé, on met une autre, et puis finalement, eh bien, c'est un ensemble de briques et de brocs, et un peu n'importe quoi, et on se dit, mais quand même, comment des gens peuvent encore croire à un système qui est si peu scientifique. C'est alors qu'il y a des preuves scientifiques que Dieu est le créateur. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir regarder à Dieu et de pouvoir regarder à notre créateur. Dieu est le créateur. Il est notre créateur. C'est quand nous prions notre créateur, celui qui nous connaît mieux que personne ne peut nous connaître, parce qu'il nous a créés. Il sait qui nous sommes, il sait de quoi nous sommes faits. Et c'est dans un psaume que nous trouvons ce verset, hein. Il sait bien de quoi nous sommes faits, il sait bien que nous ne sommes que poussière. Il sait bien que nous ne sommes que des humains. Quand nous prions, nous disons, Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Peux-tu pourvoir à mes besoins matériels? J'ai faim, j'ai ceci et cela. Il le sait. Il le sait, il nous a créés. Je me rappelle de cette histoire que j'ai entendue à plusieurs reprises. Donc elle date. Mais parce que les personnes sont décédées il y a bien longtemps. Mais il y avait un homme un jour qui était en panne, c'était aux États-Unis. Il était en panne avec sa voiture. Et alors, bien sûr, il n'arrivait pas à la refaire démarrer et bien, bien, bien gêné avec cette voiture. Et alors, une autre voiture s'est arrêtée à côté de lui. Et un homme est descendu et lui a dit, Est-ce que je peux regarder votre moteur? Et il a dit, Mais qu'est-ce que vous allez comprendre? J'y comprends rien moi non plus. Il a dit, Mais j'aimerais bien regarder votre moteur. Alors, il a dit, Ben, si vous voulez le regarder, regardez-le. Et il a fait deux, trois petites choses dans la voiture et le moteur est reparti. Il a dit, Mais comment avez-vous pu remettre cette voiture en route? Mais il a dit, Mais c'est moi, je suis Monsieur Henry Ford. C'était le propre concepteur de la voiture. Il savait bien ce qu'il y avait dans cette voiture et il savait comment la remettre en route. C'est tout simple. C'est Dieu est notre créateur, il nous connaît. L'homme a voulu se débarrasser de son créateur, et si bien qu'il est dans des problèmes sans fin, insolubles, dans des gouffres de problèmes, dans des abîmes de questions, tout simplement parce il ne veut pas se remettre à son créateur. Regarder à son créateur. Tourner les yeux vers celui qui l'a fait, celui qui le connaît mieux que quiconque. Il sait de quoi nous sommes faits. Et souvenez-vous de cela. Nous sommes influencés par ce monde qui dit que nous ne sommes pas des créatures, que nous sommes dans l'évolution. Et même nous défendons, nous disons non, je crois qu'il y a un créateur. Néanmoins, ces paroles qui sont prononcées, que nous entendons régulièrement à la télévision, qui sont un véritable lavage de cerveau, finissent par nous influencer et font que nous ne plaçons plus notre confiance dans notre créateur. Et que nous avons tendance à nous dire, mais j'ai des problèmes insolubles. Mais vous n'avez pas des problèmes insolubles. À vue humaine, oui. Mais à vue divine, non. Vous êtes la créature de Dieu. Il vous a fait. Il vous connaît. Il sait. Il connaît. Il sait quels sont les problèmes que vous rencontrez. Il sait quels sont vos sentiments. Il sait les peines que vous avez. Il sait tout cela. Vous n'êtes pas un singe plus ou moins évolué. Vous êtes une créature de Dieu. Bien des versets nous parlent de cela. Hein. Je vous les passe, vous les lirez tranquillement. Actes chapitre 4, verset 24. C'est Néhémie 9, 6. Apocalypse 4, verset 11. Tous ces versets parlent que nous sommes créatures et que Dieu non seulement nous a créés à nous, mais qu'il a créé tout ce qui est visible. Et même il a créé tout ce qui est invisible. Il a créé les anges. Il n'y a que Dieu qui n'est pas créé. Tout le reste est créé. Le monde spirituel est créé, est créature de Dieu. Les anges sont créatures de Dieu, les bons et les mauvais. Dieu n'a pas créé de mauvais anges. Il a créé que des bons anges. Mais ce sont les mauvais. Disons, ce sont les bons qui sont devenus des mauvais. Mais Dieu n'a jamais à l'origine créé de mauvais anges. Pas plus qu'il a créé un homme pécheur. Dieu a fait toutes choses bonnes. Tout était bon. Tout était parfait. Tout était complet en soi-même. Dans le mot parfait, eh bien, c'est complet en soi-même. Dieu est infini, l'homme est parfait. Même dans l'Ecclésiaste, il est dit que je vois des limites à tout ce qui est parfait. C'est-à-dire que nous avons des limites. C'est-à-dire que parfait, ça veut dire accompli. C'est-à-dire que nous avons des limites et que nous sommes parfaitement adaptés. Nous sommes capables de suffire, nous suffire à nous-mêmes, de survivre, de faire des multitudes de choses. Nous sommes complets. Il n'y a rien à rajouter. Nous n'avons pas besoin d'évoluer. Nous avons besoin de nous instruire, Nous avons besoin de savoir d'autres choses. Nous avons besoin de grandir en maturité. Mais en tant qu'être humain, nous ne serons jamais plus qu'un être humain. Sauf quand nous verrons Christ face à face. Alors nous serons changés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mais ça, c'est une promesse qui nous est faite. Mais c'est compris dans le plan de Dieu. C'est une prévision de Dieu. Dieu a déjà pensé et a dit, voilà, ceux qui ont accepté le salut, ceux qui sont nés de nouveau, seront semblables à mon Fils Jésus-Christ. C'est un plan irrévocable. Quoi qu'il en soit, vous le serez. Ça, c'est le plan merveilleux de Dieu pour votre vie. C'est en tant que créature, eh bien, Dieu veut faire quelque chose de plus quand nous sommes réconciliés avec lui. Donc, la matière n'est pas éternelle. Dieu est éternel. Dieu a créé la matière. La matière a des limites. Si vous avez n'importe quoi de matériel, un jour ou l'autre, cette chose-là sera dégradée et disparaîtra. Je me rappelle d'un homme qui lavait sa voiture tous les dimanches. Je me levais le matin et sa femme et lui, hein, ils étaient avec des seaux d'eau et tout ça, et nettoyaient, briquaient, tout. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient l'après-midi. Mais tous les dimanches matin, ils étaient à genoux, ou plutôt debout, à côté de cette voiture. Et je me suis dit vraiment, mais je me disais quand même, cette voiture dans 10 ans, elle sera à la ferraille. Peut-être avant. Et même s'ils l'ont fait durer, après 30 ans, je peux vous dire, elle est à la ferraille. Et non seulement à la ferraille, mais elle a été transformée en quoi? J'en sais rien. Mais je ne cherche même pas à le savoir. Mais peut-être que la boîte de conserve que vous achetez au supermarché de ravioli ou de haricots verts, eh bien, c'est cette voiture qui a été transformée en ceci ou cela. On n'en sait rien. Ou bien elle a été immergée, parce que maintenant les voitures, certaines, on part, les amène au large et on les immerge sur des récifs. Bon, c'est tout ça, c'est la matière. Si vous attachez votre cœur à la matière, vous serez déçu. Même vous, un jour, vous allez un jour vous éteindre, parce que vous êtes matière. Mais ce qui est spirituel est éternel. Dieu ne vous laissera pas comme cela. Votre corps, lui, va se détruire. Il est appelé à se détruire. Et il est appelé aussi à ressusciter. Mais vous, en tant que personne, eh bien, Dieu a des projets pour vous. Donc, si vous tournez vos regards autour de vous, vous verrez que des choses créées. Vous regardez par exemple la chaise qui est sur laquelle vous êtes assis ou celle qui est devant vous et vous dites mais l'homme a fait quand même quelque chose. Oui, mais la matière première est créée par Dieu. L'homme n'a fait que mettre en œuvre ce que Dieu a créé. Et Dieu, en créant l'homme à son image, il a créé l'homme comme créateur. C'est bizarre la phrase, comme je viens de la dire. Mais l'homme a une faculté de création. Vous ne le trouvez pas chez les animaux. Certains animaux sont capables de faire certaines choses il y a une réflexion derrière. Mais c'est quand même très limité. Un singe est capable de prendre une brindille et d'aller forager avec la brindille au fond d'une fourmilière pour faire ressortir les grosses fourmis parce que celles qui restent au fond. Donc il y a quelque chose que Dieu lui a donné pour aller chercher cela. Mais l'homme est capable d'inventer, d'imaginer. Même l'homme a une faculté que aucun animal n'est capable, c'est la capacité d'abstraction. On est capable d'imaginer l'inimaginable, de réfléchir sur des choses qui ne sont pas concrètes. On imagine. Alors là, les philosophes se donnent à cœur joie dans ces domaines et on peut imaginer n'importe quoi même. Les choses les plus invraisemblables, mais on peut les imaginer. On peut imaginer n'importe quoi. C'est mais l'homme a une capacité de création. C'est pour moi, je suis émerveillé de voir une belle voiture. J'entends tourner un moteur. Pour moi, je peux vous dire, ça vaut du bac. Ah oui. Je me dis, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une harmonie. C'est quelque chose qui, il y a un rythme, il y a quelque chose. C'est, je pouvais rester des heures à écouter le moteur de ma voiture tourner. Pas n'importe laquelle. Je vous dirai pas quelle marque parce que j'étais fou de une certaine marque et un certain modèle. Et je pouvais passer la coudée sur l'aile de la voiture et écouter ce moteur tourner. J'imaginais toutes les pièces qui tournaient là-dedans et je me dis c'est quand même quelque chose. L'homme est créateur. Il est capable de créer des choses très belles, très belles. C'est vous regardez un coucher de soleil. L'homme est capable de le reproduire sur une toile. Et vous, certains ont un génie si grand que vous dites, mais on dirait que je suis devant un coucher de soleil. Et vous avez même des, vous êtes dans la rue, vous avez des peintures sur les murs, des trompe-l'œil. Vous dites, mais cette maison elle a une fenêtre? Ah non, non, non. Il faut s'y reprendre à deux fois parce que vous voyez un mur où il n'y a pas de fenêtre et vous voyez une fenêtre. Et puis là, il était peinte. Et vous dites, c'est quand même quelque chose. L'homme est créateur. Ça, c'est quelque chose qu'il tient de Dieu. C'est Dieu l'a créé à son image et il est capable de créer. C'est une peu... Dieu est créateur à partir de rien. Mais, ou plutôt à partir d'autres choses, je vous dirai plus tard. Mais l'homme a besoin de matière, de matériel. Il a besoin d'un pinceau, il a besoin de couleurs, il a besoin d'imaginer les couleurs, il a besoin d'imaginer les pigments et bien, bien des choses. Et à l'origine, il y avait, on tirait de ceci et cela, et puis maintenant on tire d'autres, des couleurs encore différentes et on arrive à faire des choses merveilleuses. Donc, c'est le... Dieu est le créateur. Dieu est le grand Dieu. Créateur. Et j'aimerais que l'on lise un passage qui est un peu long, mais qui nous parle de la grandeur du Créateur. C'est Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, ce sont les versets 12 à 31. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Il est soudé des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure, etc. Vous savez, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés et pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre, il souffle sur eux et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée, et les appelle toutes par leur nom, par son puissant pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes se chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est la puissance du Dieu créateur. Il est capable. Même dans la logique humaine, vous dites un adolescent, un jeune homme court et eh bien Dieu peut renouveler les forces, il peut redonner des forces, il peut agir, il peut intervenir. Vous avez des multitudes d'exemples dans la Bible de personnes qui ont agi, qui ont fait des choses. Vous pensez à Gédéon avec ses 300 hommes qui ont mis en fuite une armée d'à peu près 100 000 ou 200 000 hommes. Vous dites, mais comment c'est possible? Eh oui, ils l'ont fait. Parce que Dieu est quand même le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Il agit. Il est capable de faire ce que aucune personne ne peut faire. C'est au-delà de notre pensée, de notre imagination. Nous mettons des limites au Dieu Tout-Puissant. Nous mettons des limites au Créateur. Dieu a dit. Dieu a parlé. Dans sa parole, nous lisons des passages qui doivent nous encourager, nous fortifier, parce que Dieu reste quand même le Créateur. Les nations s'agitent, le monde donne l'impression qu'il tient toutes les solutions, qu'on vous parle de multitudes de choses, vous avez les journaux, vous avez les informations, vous avez tout est entre vos mains et on vous dit « mais non, mais c'est comme ça que ça va se passer ». Et je peux dire une chose. Et si Dieu dit non, eh bien, ça ne se passera pas comme cela. Et si Dieu dit, tu t'arrêteras là, tu n'iras pas plus loin, eh bien, l'homme à qui Dieu a dit cela s'arrêtera et n'ira pas plus loin. Il y a eu des situations et des moments dans la vie de certains serviteurs de Dieu, et de chrétiens même, où Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse, où Dieu a fait chercher la porte des personnes qui venaient faire du mal à des chrétiens. Les gens ont cherché la porte, ne l'ont pas trouvée. Je me rappelle de ce chrétien, il était allé annoncer l'évangile au Tibet. Et bien sûr, c'est le royaume du Dalaï Lama. Aujourd'hui, on en a fait le prix Nobel de la paix. Mais à cette époque, ce n'était pas le prix Nobel de la paix, c'était un persécuteur des chrétiens. Alors, je me permets de le dire et je l'affirme. Et donc, cet homme était allé annoncer l'évangile au Tibet. Il était monté, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de route, il y avait juste des chemins de chèvres pour arriver là-bas en haut. Il était arrivé. Et il avait annoncé l'évangile dans un village. Et puis, les gens s'étaient fortement opposés. Alors, il s'était retiré. Et pendant la nuit, il est allé se dormir dans une caverne qui n'était pas bien loin. Et les gens ont vu où il était allé dormir. Et ils sont allés pour lui faire du mal. Et le lendemain matin, quand il est sorti de sa caverne, les gens lui ont dit « Mais qui étaient ceux qui vous ont gardé toute la nuit ?» Alors, il a dit, il n'y a personne qui m'a gardé toute la nuit. Il a dit, si. Il y avait des hommes forts, très forts, qui étaient à l'entrée de la caverne, on voulait vous faire du mal. Et là, on a vu, c'était des gens irrésistibles. On aurait risqué notre vie si on était allé vous faire du mal. Et ces personnes ont accepté l'évangile et se sont converties. C'était des anges. Et Dieu a fait voir, et ça, c'est au XXe siècle. Ce n'est pas du temps de Moïse ou du temps d'Élie. Et c'est arrivé des dizaines de fois. Tout le monde n'en parle pas, tout le monde ne le raconte pas. Je me rappelle d'un frère en Christ, anglais, il m'a dit, tu sais, on a eu un jour la visite d'un homme, et puis on l'a rencontré, je ne me rappelle plus de toute l'histoire, et puis on a fait des recherches plus tard. On n'a jamais pu retrouver cet homme. Et il a dit, nous croyons qu'un ange est venu nous visiter un jour et qu'il a demandé l'hospitalité. C'est Dieu fait, ne fait pas cette grâce à tout le monde. Mais Dieu est quand même le Dieu créateur. Il est capable de créer des circonstances qui font que, à un certain moment, alors que tout semble perdu, eh bien, il y a un retournement de situation qui fait que non. C'est Satan avait prévu de vous faire du mal, mais ce mal que Satan avait prévu de vous faire, Dieu le change en bien pour une grande délivrance. Non seulement votre délivrance à vous, mais la délivrance d'un peuple nombreux. Et je me paraphrase un petit peu l'histoire de Joseph et ce que Joseph avait dit à ses frères. Dieu est le Tout-Puissant, il est le Créateur. Si vous, on vous dit qu'il y a évolution, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est pour diminuer la capacité de création de Dieu et de diminuer votre foi que Dieu peut changer les temps et les circonstances en votre faveur, alors que tout semble dire que c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Il y a un rebondissement et voilà, les choses sont changées. Et nous, nous croyons que Dieu est tout-puissant pour changer les choses, pour intervenir à un moment et faire ce qui semblait être un échec lamentable, en faire une œuvre à sa gloire. Et on dit, mais c'est quand même, c'est l'œuvre de Dieu. Et là, nous fléchissons le genou devant Dieu et nous reconnaissons que Dieu est quand même avec nous et qu'il est le Tout-Puissant. Et je peux vous dire une chose, j'y crois. J'y crois. Et jusqu'à mon dernier jour, je ne veux pas cesser de croire que Dieu est le Créateur et qu'il est capable de changer toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, et de faire triompher son nom, de faire triompher sa gloire. Dans les choses qui nous semblent perdues d'avance, eh bien, ne vous en faites pas. Dieu est capable de faire en sorte qu'il y ait un revirement, et voilà, les choses sont changées. Et je pourrais vous raconter des histoires, des témoignages, pas seulement des histoires, mais des témoignages de chrétiens qui ont été délivrés d'une manière extraordinaire en réponse à des prières où Dieu est intervenu. N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est une bonne question. Et puis un autre verset. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé toutes ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Levez les yeux, regardez, regardez. Je me rappelle d'un poème de Victor Hugo où il parlait des étoiles et pour lui, c'était vraiment une évidence de Dieu. Et il disait qu'il ne pouvait pas regarder un ciel étoilé sans être dans l'adoration vis-à-vis de Dieu. Sa vie morale n'était pas recommandable, hein. Je ne vous le cite pas comme exemple. Mais néanmoins, il avait l'habitude de regarder se promener la nuit et de regarder le ciel étoilé et d'être émerveillé de cette organisation. Mais vous ne voyez que le petit, votre petite, par votre petite lucarne, par un trou de serrure, vous voyez l'univers, hein. Vous ne voyez pas grand-chose. Mais déjà, le peu qu'on en voit est magnifique. Dieu est le créateur. Et c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je répète, Dieu est le Créateur. Et quand je dis Dieu, c'est le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Chacun a son rôle bien précis dans la création. Le Père est celui qui dirige la création. Le Fils est celui qui exécute la création. Il est le Créateur. C'est lui qui agit. Et c'est le Saint-Esprit qui remplit. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui soutient la création. Les limites sont fixées par le Saint-Esprit. L'homme ne pourra pas aller plus loin que ce qui est permis. C'est dans la création, il y a l'œuvre de la Trinité. Dieu est impliqué complètement dans la création. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement l'œuvre du Fils. Et souvent, on a tendance à regarder, et c'est dans un sens, c'est vrai, parce que la parole de Dieu nous présente pas. J'ai cherché un verset qui nous parlait du Père comme créateur, non. Mais on sait que le Père est celui qui est le Père. Il est au-dessus du Fils et du Saint-Esprit, et c'est lui qui dirige toutes choses. Et donc, le Fils et le Saint-Esprit sont soumis au Père, et c'est toujours le plan du Père. Donc, c'est vrai que dans la création, c'est cela aussi. Mais, donc, nous avons bien des versets. Par exemple, vous avez Colossiens 1, verset 16. On ne va pas lire beaucoup de versets parce que le temps commence à tourner. Alors, Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est l'œuvre du Fils. Il a tout créé. Le Saint-Esprit, nous trouvons Psaume 104, verset 30. Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bon, en hébreu, comme en français, comme en grec, le mot esprit a plus un sens. Donc, c'est vrai que on a du. Ceux qui traduisent toujours le sens le moins évident. Donc, c'est vrai que ici, c'est le Saint-Esprit que Dieu crée par son souffle. C'est Psaume 104, verset 30. Et puis, nous trouvons aussi une autre chose, c'est que tout est créé par la parole de Dieu. C'est quand vous lisez que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit. C'est très important. Dieu a tout créé par sa parole. Et si nous voulions analyser la matière et tout ce que nous voyons, derrière nous trouverons la parole de Dieu, la parole prononcée par Dieu. La parole de Dieu est irrévocable. Quand Dieu a parlé, ce n'est pas pour rien dire. Il a parlé quand il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière, il a dit quelque chose qui il n'a pas dit. Oh, mais oui, mais non. C'est clair. C'est que la lumière soit. Et la lumière a été. Et nous avons la lumière. Et nous avons le soleil. Et nous avons les principes de la lumière. Je suis persuadé que quand il a tous les phénomènes électriques sont liés à cette parole. Que la lumière soit. Et bien d'autres choses sans doute. C'est Dieu a parlé. Dieu a parlé. C'est un jour, Dieu nous a dit quelque chose. Et c'est fascinant, c'est extraordinaire de voir dans la parole de Dieu le nombre de fois où Dieu parle, où Dieu dit. Et je pense à cette parole qu'une personne était venue et avait dit, c'était le serviteur du centenier, il a dit, dis une parole. C'était oui, dis une parole. Et ma fille sera guérie. Dis une parole. C'est quelque chose, il suffit d'une parole. Quand les gens sont venus vers le Seigneur Jésus, ils ont parlé avec leur Créateur. Et quand le Seigneur Jésus a dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés, et les gens ont dit, qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Mais c'était le Créateur. Il a dit, mais quel est le plus simple de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou prends ton lit, lève-toi et marche. C'est le Créateur, c'est le Dieu saint qui était là. Et le Dieu qui parle, et le boiteux ne peut pas faire autrement que de marcher. Et le paralytique, parce que Dieu a dit, marche. C'est comme quand il a dit, que la lumière soit. Il dit, marche. Va en paix, ma fille, ta foi t'a guérie. C'est à plusieurs reprises, vous voyez, le Seigneur Jésus parlait. Il parle, c'est la parole. Et nous avons au commencement Dieu dans la Genèse, mais nous avons dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, au commencement était la parole. Celui, le Créateur, c'est l'équivalent à Créateur. Il est le Créateur. Au commencement était le Créateur. Et quand il est arrivé, il a parlé, il a prononcé des paroles. Il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est des paroles vivantes. Et parce que quand Dieu crée, les choses marchent, elles bougent. Quand il dit qu'il y ait de la semence, qu'il y ait des animaux, il a prononcé des paroles sur eux, et ces choses ont été vivantes. Et quand il dit que le boiteux marche, que l'aveugle voit, etc., etc., vous prenez tous les miracles des évangiles, vous les retrouvez, et vous voyez le Créateur parler et prononcer des paroles, parce que le Seigneur Jésus est le Créateur. Et il dit, le Fils ne ri fait rien de lui-même, c'est le Père qui l'a envoyé. C'est le même processus que dans la création au début. C'est toujours Dieu et toujours le Créateur. Alors, vous trouvez Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et pour moi, c'est même tout le phénomène matériel est là. Tout a été fait par des choses invisibles. La parole éternelle et permanente de Dieu. Dieu a parlé. Notre réponse à nous en tant que chrétiens, face à la parole de Dieu, parce que le livre que je tiens entre mes mains, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui crée. C'est la parole prononcée par Dieu qui est capable de créer en moi des sentiments, des changements, des consolations, qui est capable de travailler dans ma vie. Et moi, ma réponse face à cette parole, c'est la foi. Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, il n'y avait rien. Il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a parlé et les choses se sont faites. Si Dieu parle, si moi je prends au sérieux ce que Dieu dit et que je place ma foi dans la parole, cette parole a la puissance de transformer ma vie, de changer ma vie. Je voudrais vous faire remarquer que nous sommes en Jésus-Christ de nouvelles créatures. C'est-à-dire qu'il y a création, il y a une nouvelle création. L'évangile que nous prêchons, c'est une parole créatrice de nouvelle vie. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une parole créatrice. C'est une parole que quand on la prononce, eh bien, elle est capable de changer une vie, de changer le monde. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance de la parole de Dieu. Nous ne pouvons même pas imaginer ce qu'est la puissance de la parole de Dieu. Il y avait un homme qui parlait à un chrétien célèbre, j'ai perdu son nom malheureusement, et il lui disait, il faut défendre la parole de Dieu. Il lui a dit, ouvrez la cage. Il a dit, comment ouvrez la cage? Il a dit, la parole de Dieu, c'est un lion. Si vous la tenez enfermée, elle ne peut rien faire. Ouvrez la cage, elle se défendra toute seule. Et nous, eh bien, notre réponse, c'est propager la parole, donner la parole, offrir la parole, c'est parler, annoncer l'évangile. Je me rappelle, j'avais argumenté avec une personne longuement sur l'évangile. Et puis, j'étais à bout d'arguments et la personne n'était toujours pas convaincue. Alors, je lui ai dit, écoute, je vais te montrer un verset. Et je lui ai montré tout son péché, son privé de la gloire de Dieu. Alors, il a regardé, il a dit, ah oui, là, ça, je comprends. Pourquoi est-ce que je n'étais pas allé plus tôt? C'est la parole de Dieu. Elle est puissante. Et souvent, nous présentons nos arguments, nos idées sur la parole de Dieu. Mais il faut livrer la parole, la donner, la propager, dire. Et puis, elle est capable de changer des vies. Mais nous devons prononcer avec foi, avec confiance. Et souvent, quand nous parlons de la parole de Dieu, on essaye de la défendre, d'expliquer, de la rendre crédible. Mais c'est, j'ai plusieurs versets. C'est 2 Corinthiens 4, verset 6. Bien sûr, je me suis trompé, merci. Car Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est Dieu a dit. C'est quelque chose que, comme Dieu a dit que la lumière soit, eh bien, il a dit que la lumière soit dans notre vie. Et nous avons été éclairés par la lumière. Et le Seigneur Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et quand nous annonçons l'évangile, Dieu nous illumine de sa lumière. Et il dit que la lumière soit. Et nous étions dans les ténèbres. Nous ne comprenions rien. Nous ne savions même pas pourquoi nous étions sur cette terre. Qu'est-ce que nous faisions? Eh bien, maintenant, nous le savons. Parce que nous savons. Nous le savons parce que nous savons que nous avons un Créateur. Et non seulement nous savons que nous avons un Créateur, mais nous savons qu'il nous aime et qu'il a donné son Fils pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et nous avons un but à notre vie. Notre but à la vie est lié à notre Créateur. Nous avons besoin de notre Créateur parce que celui qui essaye de vivre indépendamment de son Créateur, eh bien, est en dehors du plan créateur. C'est nous sommes essentiellement liés à notre créateur. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour un plan. Dieu veut nous utiliser. Et Dieu ne parle pas ici des pasteurs. Il ne parle pas des diacres. Il ne parle pas des personnes qui ont une fonction essentielle dans l'Église. Il parle de chaque chrétien. Il parle de ceux qui nous étions morts par nos vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est à ces personnes-là qu'il parle. C'est n'importe quelle personne qui est née de nouveau, qui est une nouvelle créature en vue de un plan pour que Dieu a prévu. Dieu veut vous utiliser. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Chacun est capable d'être utilisé par Dieu. Dieu donne des capacités. Dieu donne, j'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je sais que Dieu veut vous utiliser d'une manière ou d'une autre. Vous dites, mais je suis le dernier des membres de l'Église, je suis le plus petit. Mais ça me rappelle des paroles de Gédéon. Je suis le plus petit dans la tribu de Manassé, et ma tribu est la plus petite parmi toutes les tribus d'Israël. Oui, eh bien, c'est le Seigneur Jésus, l'ange de l'Éternel, c'est la même chose, lui dit, va avec la force que tu as. C'est Dieu lui avait donné ce qu'il fallait. Et Pierre, 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, vous avez été régénérés, vous avez été générés à nouveau. C'est nouvelle génération. Et c'est Dieu nous a régénérés en Jésus-Christ. Et puis je voudrais terminer avec deux autres versets. 1 Corinthiens 1, verset 18. Ou plutôt, nous allons voir Psaume 51, verset 12 avant. Parce que je l'ai rajouté plus tard. Psaume 51, verset 12. C'est le psaume que David a écrit après son péché. Alors, le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. David disait, crée en moi un cœur pur. Il s'était détourné de Dieu par le péché, il avait endurci son cœur dans le péché, il avait vécu dans le péché, et il dit, crée en moi un cœur pur. C'est une création de Dieu, le cœur pur. Vous pourrez essayer par tous les moyens d'avoir un cœur pur, vous n'y arriverez pas. Vous êtes obligé de dire, comme David, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé. Et puis 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et puis, verset 17, juste avant, ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et souvent, nous annonçons l'évangile avec des sagesses de langage, avec une argumentation serrée, avec c'est logique. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est logique. En effet, et cette personne est repartie, inconvertie, et j'ai perdu de vue, je ne sais même pas si elle s'est convertie après. C'était logique. L'évangile, c'est la folie de la prédication. Et nous annonçons l'évangile. Pour l'homme, c'est une folie. Mais pour Dieu, c'est la sagesse infinie. Et puis, deux derniers versets, 23 et 24, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Nous annonçons la parole de Dieu. Nous annonçons le message de la parole de Dieu. C'est de l'Évangile. L'Évangile est capable de créer, de travailler dans les cœurs, dans les consciences. C'est notre responsabilité, c'est de le livrer, de le donner, de parler. Et quand nous parlons, eh bien, Dieu change, Dieu intervient. Et quand nous lisons la parole de Dieu, souvenez-vous que cette parole est capable de vous transformer et de vous changer à deux conditions. La première, c'est que vous vouliez changer. La deuxième, c'est que vous mettiez votre confiance. Et ensuite, eh bien, ne vous en faites pas. Prenez au sérieux la parole de Dieu. Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, change le cœur, change les vies. C'est la parole de Dieu a changé des peuples, a changé des nations, a changé des époques où il semblait que tout était perdu. Eh bien, Dieu a changé. Dieu est intervenu par sa parole. La parole a été diffusée, la parole a été propagée. N'hésitez pas à donner la parole de Dieu, à présenter la parole de Dieu, à dire la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et ta parole est la vérité. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Nous désirons que ta parole agisse et qu'elle travaille dans les cœurs. Nous voulons placer notre confiance dans ce que tu as dit. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu l'as dit, parce que tu as parlé, parce que tu nous as fait des promesses, parce que ces promesses sont véritables. Et parce que nous n'aurons jamais honte d'avoir cru en toi, d'avoir espéré en toi, d'avoir espéré dans la puissance de ta parole. Nous voulons te remercier pour toi-même, notre Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
On va chanter la dernière strophe rapidement.